Chapitre 29. Chloé, 19 juillet 2018. Il commence par me dire qu'il va me raconter une histoire. C'est une histoire pas très joyeuse, mais c'est la sienne. Et je ne peux pas le connaître si je ne sais pas ça de lui. Je l'observe attentivement et je le trouve bouleversant, dans ce décor de velours rouge, de dorures et de lustres en cristal, que l'on dirait tout droit sorti de Gatsby le Magnifique. Il détache sa banane de sa taille, ouvre délicatement le zip et en sort quelques objets qu'il dépose sur la table. Je les saisis sans comprendre. Il y a là deux photos, un bracelet brésilien, une bague et une enveloppe contenant une mèche de cheveux noirs. J'observe la première photo et mon cœur s'emballe en même temps qu'il se fendille. Sur cette image, Luther est adolescent. Il tient par la taille une ravissante jeune femme noire aux longs cheveux crépus laissés libres, tout sourire face à l'objectif. S'il ne m'avait pas dit que l'histoire serait douloureuse, j'aurais pu croire à du pur sadisme. Mais je sais qu'il n'en est rien. Les chandelles disposées sur les tables font briller son regard. Je n'entends plus les musiciens, pourtant entassés sur une scène microscopique à 3 mètres de nous. Je l'écoute. Nicole et moi avions 17 ans. Nous nous aimions depuis près de 2 ans. Nous projetions de nous marier plus tard, lorsque nous aurions fini nos études. Il n'était pas question de renoncer à nos futurs. Nicole est tombée enceinte. En Louisiane, où nous vivions, toute personne mineure doit obtenir l'autorisation de ses parents pour pouvoir avorter légalement. Les parents de Nicole étant fermement opposés à l'interruption volontaire de grossesse, il était clair qu'ils ne lui donneraient jamais leur accord. Je lui ai proposé de partir dans un autre état, d'économiser pour payer le voyage, l'opération, tout. Mais Nicole savait que je travaillais dur pour financer mes études. J'étais employée à temps partiel dans un fast-food local. Elle ne voulait pas mettre cela en péril. Il marque une pause, boit une gorgée de son cocktail, puis il continue. L'émotion m'envahit à mesure que sa voix se serre. Nicole ne m'a rien dit, mais elle a suivi les conseils d'une jeune femme rencontrée sur Internet. Elle a subi, sans m'en informer, et seule, un curetage à l'ancienne. Elle s'est vidée de son sang. La femme qui l'opérait a pris peur. Elle s'est enfuie. Lorsque les secours sont arrivés, Nicole était morte. Il sourit faiblement. J'aimerais déposer ma main sur la sienne, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir une absurde jalousie qui me tient à distance. Luther reprend son douloureux récit. En l'espace de quelques heures, j'ai tout perdu. Alors je me suis perdue moi aussi. J'ai arrêté mes études, et je me suis gavée de médicaments à base d'opiacés, ce mal légal qui ronge l'Amérique. J'ai longtemps erré, mais je ne pouvais plus rester en Louisiane. Tout là-bas me rappelait ce qui aurait pu être, mais ne serait jamais. L'air était saturé de souvenirs. Je suis partie en stop, avec pour seul bagage un sac à dos et cette banane que tu aimes tant. J'ai atterri à New York. C'est là que j'ai repris pied. Ce mec est extraordinaire de dignité et de force. Au beau milieu de ce terrible récit, il s'est même permis un clin d'œil à propos de cette banane qui vient de livrer ses mystères. J'ai honte, tout à coup, des moqueries balancées à ce sujet depuis notre rencontre. J'ai trouvé un job de serveur dans un bar de Greenwich Village. C'est là que j'ai rencontré celui qui est devenu mon patron, M. Webster, le créateur de l'agence de détectives pour laquelle je travaille désormais. C'était il y a 8 ans. M. Webster m'a d'abord recruté incognito, pour des missions d'observation au sein du bar. Je n'ai pas dû être trop mauvais, puisqu'un jour il m'a proposé de m'embaucher à temps plein. Sa seule condition, c'était que j'arrête ces conneries d'opiacés. Je pensais qu'il avait terminé, mais ça n'est pas le cas. Il prend une grande inspiration, et ce que je découvre me remue plus encore que tout le reste. Je ne crois pas au hasard, mais je crois au destin. et le destin a mis sur mon chemin le jour même de mon embauche chez Webster Detectives, un centre de planning familial. Le genre de lieu qui aurait pu sauver Nicole, si les crédits des centres de Louisiane n'avaient pas été coupés. Je ne sais pas pour quelle raison j'ai poussé la porte du centre ce jour-là, mais je l'ai fait. J'y ai rencontré des personnes formidables. J'y ai raconté mon histoire. Et de fil en aiguille, j'y suis devenue bénévole. Deux soirs par semaine, après ma journée de travail, je recueille la parole de celles qui ne savent pas à qui s'adresser. Je les guide, les oriente vers un professionnel de santé. Je n'ai pas de formation de psychologue, mais j'ai de l'empathie à revendre. J'ai souvent face à moi des jeunes femmes que personne n'a jamais écoutées, pour lesquelles ce premier contact bienveillant est précieux. Les hommes sont rares dans ce milieu, mais moi je m'y suis tout de suite sentie utile. À ma place. Il me lance en riant que mon visage est dévasté, puis me dit avoir bientôt fini. Les professionnels de santé du centre m'ont aidé à sortir de mon addiction. Il m'a fallu près d'1 an pour un sevrage complet. Et je suis fière de dire que depuis 7 ans, je n'ai plus touché à aucune drogue. Je conserve mes quelques souvenirs de Nicole dans cette banane qui ne me quitte jamais. Je me suis jurée de m'en séparer lorsque je rencontrerai une femme avec laquelle j'aurai envie de faire un bout de chemin. Cela ne m'était jamais arrivé. Ça m'est tombé dessus, il y a quelques jours. J'ai très chaud tout à coup, et je sais que l'alcool n'y est pour rien, même si ce cocktail à base de liqueur de cacao est particulièrement corsé. Luther plante ses yeux dans les miens, et mes joues s'enflamment. Je baisse le regard, entoure mon verre de mes mains pour les empêcher de trembler. Chloé, je voudrais que tu jettes un œil à la deuxième photo. Je m'exécute. Il s'agit de l'une de ces plaques de Central Park. Décidément, elles sont partout. J'ai du mal à distinguer ce qui est écrit dans la faible lumière de ce speakeasy. Lorsque j'y parviens, je ne sais plus quoi penser. Il est écrit « To all women who fight, to Nicole, who didn't have enough time. » L.H. La musique s'est arrêtée, donnant une soudaine solennité à cet instant. Les jazzmen ont rangé leurs instruments. Nous ne sommes plus qu'une dizaine de clients. L'atmosphère est de plus en plus intime. Luther marque une pause lourde de sens. Plus il avance, plus j'ai peur qu'il ait découvert ce que j'ai fait. Et cette idée me pétrifie. Chloé, je t'ai menti. En réalité, je n'ai pas pu m'empêcher de mener à bien la mission que m'a confiée ta grand-mère à ton propos. Sans jamais rien lui communiquer, bien sûr. C'est moi qui gère toutes les enquêtes comprenant un volet français à l'agence. Alors j'ai mes réseaux dans votre police, votre administration, et dans les principales banques du pays. Tes relevés bancaires puis quelques coups de fil à Aurillac m'ont appris que tu y es arrivée enceinte et repartie sans enfant. J'ai stoppé mes investigations. J'ai eu honte de moi, soudain. J'ai tout voulu te dire, mais les jours qui viennent de s'écouler ont été si denses, si riches en événements, que je n'ai jamais trouvé le bon moment pour t'avouer cela. Je suis désolée d'avoir fouillé dans ta vie. Je n'aurais pas dû. J'espère que tu pourras me pardonner. Sache en tout cas que quoi que tu aies vécu là-bas, et je sais que c'était forcément une épreuve difficile, je voulais te dire que ça ne change rien à ce que je ressens pour toi. Je sens monter en moi une indicible rage et une déception intense. Je serre les poings et les mâchoires. Sa trahison me scandalise. Mais surtout, ce qu'il vient de me raconter sur son engagement et sur le drame qu'il a vécu me pousse à croire qu'une femme comme moi ne pourra que le dégoûter. Alors puisque nous y sommes, allons-y. Luther, tu ne me connais pas. Tu ne sais rien de ce que j'ai fait. Et quand tu sauras, je peux te garantir que tu me détesteras. Je ne suis pas idiot, Chloé. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités concernant ce qu'il s'est passé à Aurillac. Soit tu as accouché d'un enfant sans vie, soit tu as accouché sous X. Dans les deux cas, l'épreuve est effroyable. Je ne juge pas. Je ne te juge pas. et je prends tout. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il m'énerve avec son politiquement correct de merde. Son « tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil ». Alors j'explose. Mais tu vis dans quel monde ? Un monde où il est acceptable d'abandonner son enfant ? Parce que c'est ce que j'ai fait. Je suis pitoyable, inhumaine, incapable de grandir, incapable d'élever un enfant. C'est un choix extrêmement difficile, Chloé. Si tu l'as fait, c'est que tu estimais que c'était la meilleure solution. J'hésite à continuer. Je devrais partir, mais je reste. J'ai besoin de parler. Le problème, c'est que je doute. Je doute terriblement. Je ne suis pas certaine d'avoir fait le bon choix. Je ne suis d'ailleurs pas certaine que ce choix ait vraiment été le mien. Et c'est encore réversible. Je peux encore changer le cours de mon histoire. Mais c'est une telle responsabilité. Je n'arrive pas à l'assumer. Je n'y arrive pas. Je l'observe en silence, espérant déceler une opinion sur ce que j'ai fait. Luther reste d'une angoissante neutralité. Si tu souhaites en parler, je suis là. J'aimerais me confier encore, mais je ne peux plus soutenir son regard. Je me lève, m'apprête à partir. Il me retient par le bras. Il m'explique qu'il avait deviné avant même de savoir que nous avions des choses en commun. Qu'il aimerait pouvoir m'aider. Que je ne dois pas rester seule avec ce secret. Que l'exemple de Gina montre à quel point on peut être dévoré par les secrets. Que d'autres peuvent m'aider. Qu'il faut que je parvienne à assumer mon choix, quel qu'il soit, sinon je ne pourrai pas avancer. Et qu'il est prêt à m'accompagner, quel que soit le chemin. Tu parles comme si nous étions un couple. Je te l'ai dit. Je crois au destin, Chloé. Je suis heureux que ta grand-mère m'ait contacté. Je suis heureux que tu l'aies suivi. Que tu sois là. J'ai tout mon temps. Les larmes que j'avais retenues jusque-là pointent au bord de mes cils. Je ne veux pas pleurer devant lui. Et puis c'est trop tout ça. Trop d'émotions pour une seule journée. Pour une seule personne. J'ai besoin d'être seule. Je m'enfuis. Juste avant de m'endormir, une image apparaît. Une image que mon esprit tente de rejeter, de tenir fermement à distance depuis des semaines. Une image qui insiste, qui ne cède pas. Comment peut-elle être si vivante sous mes yeux clos ? Comment peut-elle être si belle ? Mon sang se met à battre plus fort. Je songe à prendre un somnifère afin de la faire disparaître, de l'éloigner, cette photographie mentale qui fait si mal. Je lutte de longues minutes contre moi-même, contre elle aussi. Je ne veux céder ni à l'une ni à l'autre. Mais l'image s'incruste, refuse de partir. Cette fois, tu vas devoir me regarder. Alors je ne sais pas expliquer pour quelle raison je la laisse entrer. Et sa beauté infinie me submerge. Ce soir, sur ce lit à des milliers de kilomètres de lui, je m'autorise à contempler pour la première fois le sourire de mon petit garçon. Je l'observe longtemps, le détaille, le reconnais. Je ne suis pas certaine de pouvoir continuer à vivre sans ce sourire-là. Peu à peu, mon rythme cardiaque s'apaise et je sombre dans un sommeil étrange. Peuplé de beaux détectives, de comédies musicales, de vieilles dames et de rires d'enfants.